Bonjour à tous, vous êtes sur Radio Picasso et aujourd'hui, le 14 novembre 2024, la classe d'AGGSP Terminale d'Aragon Picasso de Monsieur Azam. Allons voir une adaptation par le metteur en scène Dominique Lurcel d'un livre Une saison de machettes écrit par Jean Hatzfeld. La compagnie s'appelle donc Les Passeurs de mémoire et le dispositif scénique est composé de 4 acteurs et un contrebassiste.
Nous sommes actuellement avec Monsieur Azam, professeur de AGGSP des Terminales. Pourquoi avez-vous décidé de nous emmener voir une pièce sur le génocide rwandais ?
Alors, parce que le thème de cette pièce, Une saison de machettes, porte sur le génocide rwandais et sur des témoignages livrés par des génocidaires au journaliste français Jean Hatzfeld. Or, nous avons dans notre programme deux thèmes, un thème qui s'intitule « Faire la guerre, faire la paix » et un autre qui s'intitule « Histoire, mémoire et justice ». Et dans ce troisième thème, « Histoire, mémoire et justice », on doit étudier notamment la façon dont les dirigeants rwandais ont organisé la justice à l'égard des génocidaires au début des années 2000, notamment avec ce qu'on appelait les tribunaux Gacaca, des tribunaux de proximité, et avec un but qui était... Enfin, double objectif, juger, mais aussi permettre une forme de réconciliation, permettre aux populations, des bourreaux et des victimes, d'essayer de vivre ensemble au pays.
Qu'est-ce que vous pensez que cela peut apporter aux jeunes élèves de terminale ?
Ouais, l'idée, c'est que comme on est dans une spécialité où on étudie 6 thèmes avec beaucoup de notions, des concepts, etc., il s'agissait d'aborder finalement une partie du programme de manière un peu indirecte, un peu plus vivante, avec justement une forme qui est du spectacle vivant, c'est-à-dire une adaptation théâtrale d'un livre écrit par un journaliste. Donc l'idée, c'est d'aborder un thème du programme, mais d'une autre façon qu'un cours classique.
Ce que vous allez entendre pendant 1h20, ça n'a rien de romanesque, rien d'inventé. Tout est vrai, dit, prononcé. Donc voilà, c'est du théâtre de témoignage, c'est une transmission et on pourra, si vous voulez, en parler un petit peu après. Mais merci de votre écoute et de votre attention.
Je ne me souviens pas de la première personne que j'ai tuée parce que je ne l'ai pas identifiée dans la cohue. Par chance, j'ai commencé par tuer plusieurs personnes sans les regarder en face. Je veux dire que je cognais, ça hurlait, mais c'était de tous côtés. C'était donc un entremêlement de cris et de coups qui se partageaient par tous. Je me souviens toutefois de la première personne qui m'a regardée au moment du coup sanglant. Ça, c'était grand-chose. Les yeux de celui qu'on tue sont immortels s'ils vous font face au moment fatal. Ils ont une couleur noire terrible. Ils font plus sensation que les dégoulinements de sang et les râles des victimes, même dans un grand brouhaha de mort. Les yeux du tué, pour le tueur, sont sa calamité s'il les regarde. Ils sont le blâme de celui qu'il tue.
Pourquoi avoir choisi sur le Rwanda de mettre en avant la parole des bourreaux plutôt que des victimes ?
C'est une question centrale. Hein. Alors, c'est une question d'abord personnelle, c'est-à-dire que moi j'ai toujours refusé finalement de faire entendre la parole des victimes. Pas parce qu'elles ne sont pas importantes, elles sont absolument bouleversantes, mais justement parce qu'elles sont bouleversantes. C'est-à-dire que moi je trouve que sur des sujets comme ça, et sur la Shoah, c'est pareil, et sur d'autres massacres de masse, c'est pareil. Les paroles des victimes sont tellement bouleversantes que, d'une certaine façon, si on propose ça au public, on ne lui laisse pas le choix. C'est-à-dire qu'il est forcément bouleversé. C'est comme si on, pour moi, hein, c'est comme si on prenait le public en otage, d'une certaine façon. Alors que, par exemple, j'ai travaillé sur, sur la Shoah, et je voulais travailler sur Primo Levi. Mais Primo Levi, j'ai choisi de travailler sur les conversations. Parce que les conversations, ça laisse un libre choix au spectateur. C'est-à-dire qu'il entre dans la conversation, c'est un ping-pong, il y a deux personnes qui parlent, donc il peut respirer à l'intérieur de ça. On n'est pas... Il y a un truc, alors c'est un mot qu'on peut retrouver dans le pathos, c'est-à-dire cette façon d'en rajouter dans l'émotion. Par exemple, un truc que vous connaissez très bien, mais peut-être que vous n'êtes même pas sensible à ça, tellement c'est naturel. Dans les séries télé, par exemple, dans certains films, la musique. La musique qui, au moment où il y a une scène qui va être une scène grave, il y a une musique qui vous annonce que la scène va être grave. Au moment où il y a une scène qui va être une scène un peu tendre, une scène d'amour, vous avez les violons qui démarrent et qui vous disent « attention, ça va être tendre », ça je ne supporte pas. Donc ça c'est du pathos, c'est-à-dire c'est de la super émotion. En revanche, faire entendre ces paroles-là, on peut pas être, on peut ressentir des émotions, mais on peut pas être dans le pathos. On est dans d'autres types d'émotions et qui sont plus d'ordre de la sidération, de l'étonnement. Donc c'est autre chose qui se passe chez le spectateur. Et puis il y a une raison plus profonde. Il y a une raison plus profonde qui a fait que quand j'ai découvert ce livre, il venait de sortir en 2003. Je me souviens, je me vois en librairie, j'avais un autre projet de théâtre à l'époque, mais je lis la quatrième de couverture et je me dis « waouh ». C'est-à-dire, c'est sans précédent. C'est-à-dire que dans l'histoire des génocides, vous n'avez jamais ça. Vous n'avez jamais la parole des gens de la rue, des tueurs ordinaires. Eux, ils rasent les murs, ils se cachent, ou si jamais on les prend, enfin, ils disent « ah non, non, c'est pas moi », ou « ah non, je ne l'ai pas fait », ou « j'ai obéi aux ordres ». Mais sur la Shoah, par exemple, on a quelques textes de haut dignitaire. On a le journal du commandant d'Auschwitz, par exemple, qu'il a écrit en prison avant d'être exécuté. Il avait été jugé. Mais c'est un des chefs. Ce n'est pas les tueurs ordinaires. Ce n'est pas nous, quoi, d'une certaine façon. Ce n'est pas les gens comme nous qui, à un moment donné, de gens ordinaires, deviennent des tueurs extraordinaires. Et ça, ce livre, pour moi... Il est essentiel pour ça, et il est essentiel aussi pour une autre raison, et c'est quelque chose, je pense, que vous avez pu entendre dans ce qu'ils disent, c'est qu'on comprend, à travers ce qu'ils racontent, comment un génocide peut se mettre en place. Comment, justement, des gens, comment des copains, peuvent, à un moment donné, massacrer leurs copains. C'est pas propre au Rwanda, hein. Moi, je n'ai pas voulu du tout en faire une histoire africaine. C'est pour ça, d'ailleurs, que les comédiens ne sont pas... Quand on l'a créé en 2006, il y avait un programmateur qui m'avait dit « Mais pourquoi tu n'as pas pris des acteurs noirs pour jouer ce spectacle ?» Moi, j'ai dit « Mais parce que si on prend des acteurs noirs, ça permet à tous les blancs de la salle de se dire « C'est pas nous, hein. Ils sont comme ça, c'est des sauvages, c'est bien connu, ils s'entretuent, etc. » J'ouvre des guillemets, évidemment, dans tout ce que je dis, hein, j'espère. Donc ça, je ne voulais pas. Je voulais vraiment montrer que c'était universel. Au moment où le Rwanda, où le génocide a lieu, les yeux de l'Europe sont entièrement tournés vers un autre massacre de masse. C'est en Yougoslavie, en ex-Yougoslavie, entre la Bosnie, la Serbie, etc. Et ça, c'est une des raisons pour lesquelles on n'a pas tout de suite perçu ce qui se passait. C'est aussi parce que c'était loin, alors que, évidemment, Serbie-Bosnie, c'était beaucoup plus près. Mais en Serbie et en Bosnie, les phénomènes ont été exactement les mêmes. Y a un énorme bouquin qui s'appelle Massacrer, détruire. Jean Semelin, qui est un grand historien des massacres de masse, il a beaucoup travaillé sur ce qui s'est passé en Bosnie et en Serbie. C'était la même chose. C'était des gens qui se connaissaient très très bien. C'était des grands-mères qui buvaient le thé ensemble. Et en 8 jours, à une vitesse dingue, ça bascule. Et l'autre devient l'ennemi à abattre. Donc ce n'est pas un phénomène évidemment lié à ce génocide-là. Il y a d'autres phénomènes qui sont liés à ce génocide, mais pas celui-là.
Est-ce que vous pouvez nous parler de vos choix de mise en scène ?
Quand Hatzfeld rencontre ces gens-là, ils sont en prison, ils s'ennuient. C'est sans doute une des raisons d'ailleurs pour lesquelles ils parlent de façon si naturelle. Le temps ne passe pas, ils ont été condamnés, ils ont l'impression qu'ils vont rester en prison très très longtemps. Ils ne savent pas qu'ils vont être graciés. Il va y avoir une grâce nationale pour des raisons économiques. Ils retourneront en prison d'ailleurs après, mais ça c'est encore autre chose. En tout cas, ils ne savent pas, quoi. Ils sont là. Et j'ai eu très vite l'image de jeunes dans une cité qui s'ennuient, qui sont assis au pied de leur immeuble. Voilà. Et puis il y avait le mur, qui était le mur de la prison aussi. Enfin, on peut se dire ça. Après, c'est ce que je vous ai dit, une des choses qui sidère le plus, quand on lit le livre de Jean Hatzfeld, et qui sidère Hatzfeld lui-même, c'est la façon dont ils ont transmis ça. C'est-à-dire que, là je vous parle, je fais des gestes. Je fais des gestes parce que je transmets une énergie, j'ai envie de vous convaincre de quelque chose. Or, eux ne cherchent pas à convaincre, de rien du tout. Ils sont là, bah ça s'est passé comme ça, il y avait des points forts, il y avait des points faibles, on a coupé les copains au lieu de couper le sorgho, on y trouvait notre compte, on nous a mis ça dans les têtes, mais avec une sorte de détachement, de distance, comme s'il y avait une vitre entre eux et ce qu'ils ont fait. Et ça, j'ai vraiment, c'était le centre du travail avec les comédiens. C'était d'essayer de trouver cette note-là, et c'est très difficile pour eux. Parce qu'ils ne sont pas des personnages. Quand tu es un personnage, tu peux défendre ton personnage, même si c'est un salaud. Il faut le défendre d'ailleurs. Il faut essayer de lui trouver en tant que comédien, il faut lui trouver des raisons d'être. Hein, il ne faut pas l'accabler en jeu, je veux dire. Mais là, ce ne sont pas des personnages. Ce sont juste des paroles qu'on transmet comme ça. En plus, ce sont des paroles qui passent de l'un ou de l'une à l'autre. Donc il fallait travailler sur une incarnation qui n'était pas une incarnation. Être à mi-chemin entre la récitation et l'incarnation complète. Et ça, c'est pas facile. C'est pas facile du tout. Ce qu'ils font, c'est pas facile du tout. Et c'est de trouver une sorte de musique collective, comme un chœur, quoi. Et c'est ça, c'est l'essentiel du travail et de la mise en scène. Parce que pour moi, la mise en scène, c'est d'abord le travail avec les comédiens. Hein. Et après, évidemment, s'ils avaient bougé, je vois pas d'autre solution, en fait, par rapport à ce texte-là, à cette transmission-là. Et en fait, je suis très content parce que quand même, on a maintenant eu pas mal de Rwandais qui ont vu le spectacle et aussi pas mal d'historiens qui font le va-et-vient entre Paris, Kigali et de journalistes qui connaissent très bien la question et qui nous disent, qui les ont rencontrés aussi, qui nous disent c'est exactement ça. Voilà, c'est exactement ça. Donc et Hatzfeld dit par rapport à cette vitre-là, parce que ça interroge quand même, on se dit mais c'est quoi ça, comment on peut. Il dit, mais s'ils commencent à se poser des questions, ils se flinguent. Ils ne peuvent pas. Donc ils sont, c'est même pas une forme de déni, c'est une mise à distance. C'est une mise à distance. Il y a une protection, une carapace. Et de fait, ils dorment très très bien. Ils ne font pas de cauchemars. Et Hatzfeld dit, ils ont resté en prison, il y en a des milliers. Il n'y a eu aucun suicide en prison. Et aucun non plus après, quand ils ont retourné sur les collines. Ils vont bien. Hein. Ils vont très bien.
Qu'est-ce qui, selon vous, est le plus surprenant dans le génocide rwandais? Vous y avez peut-être déjà un peu répondu, mais...
Qu'est-ce qui est le plus surprenant dans le génocide rwandais? En tout cas, ce qui est spécifique au génocide rwandais, c'est le fait que les nazis, avec toute leur technique, leur organisation, leur bureaucratie, je dirais qu'ils ont été moins efficaces que les Hutus, parce que ça a été un massacre de masse. Les nazis, c'était... Alors, il y avait une minorité agissante, nazis, Gestapo, SS, etc. Mais quand même, les Tutsis, les Hutus, en 3 mois, 1 million de morts, ça veut dire que quasiment tout le monde participe. C'est ça l'interrogation incroyable. Comment, à un moment donné, 80% de la population soit massacre directement, soit aide au massacre, soit dénonce. Ah, le choix de la contrebasse. Écoutez, moi je trouve que la contrebasse, d'abord, c'est une voix humaine absolument magnifique, que ça fait du bien un petit peu dans ce spectacle, que ça aide à respirer. Et en même temps, ce que fait Yves, qui fait jamais la même chose, hein. C'est un contrebassiste de jazz, donc il improvise. Il y a une base, mais à chaque représentation, c'est différent. Et il y a des jours où c'est plus violent. Ce soir, là, cet après-midi, c'était pas violent. C'était plutôt, on allait plutôt vers le lamento, quoi, vers quelque chose de plus doux, plus triste. Ce qui fait qu'il crée des atmosphères différentes selon son état, hein, selon sa façon d'écouter aussi les comédiens et les comédiennes. Mais ça aurait pu être un violoncelle. Hein. Ça aurait pu être un violoncelle. C'est vrai que j'ai rencontré Yves au moment où je travaillais sur la première mise en scène de saison de Machette. On a travaillé ensemble sur des soirées cabaret dans la même ville où on travaillait. Et je lui ai proposé. C'est aussi des histoires de rencontres, le théâtre. Voilà. Mais je pense que la contrebasse, là, c'est plus profond encore que le violoncelle, là, en l'occurrence. Merci à vous.
La pièce vient de se finir. Nous sommes actuellement dans le bus pour rentrer au lycée. Nous sommes avec des élèves. Quelles ont été tes premières impressions, Oscar, sur la pièce ?
J'ai bien aimé. C'est une nouvelle approche très intéressante d'un génocide. On a cette fois la vision des bourreaux. On a souvent l'habitude, dans toutes sortes de génocides et toutes sortes d'histoires, d'avoir la vie des victimes. Et avoir la vie des bourreaux qui sont donc, comme nous l'avait expliqué le metteur en scène, qui ont comme une vitre, une barrière entre leurs actes et leur être humain, leur personne, fait qu'on comprend mieux la situation, on n'est pas victime ou pris par les émotions comme l'avait dit le metteur en scène, mais beaucoup plus dans l'humain, dans sa personne, et comprendre qu'est-ce qui a fait qu'ils sont arrivés à là et qu'est-ce qui a fait qu'ils sont encore là et qui tiennent encore, enfin, qui ont réussi à avoir une vie normale après. Voilà.
Donc nous sommes actuellement avec le deuxième professeur accompagnant d'HLP, Monsieur Lomesfeld. Qu'avez-vous retenu de cette pièce de théâtre ?
J'ai été bouleversé par la pièce, notamment parce que, comme insistaient les comédiens, c'est vraiment des individus ordinaires. Qui tuent leurs semblables, parfois leurs voisins, avec qui ils prenaient le thé ou ils prenaient le café, comme s'ils faisaient une activité comme un autre, comme s'ils allaient couper des bananes avec leur machette. Et donc c'est le fait que ces massacres ont été accomplis par des individus ordinaires et qui avaient des rapports très courtois en fait avant avec ces gens-là. Et donc évidemment, par effet de miroir, on se demande est-ce que moi je suis capable de faire ça, ou est-ce que les individus en général sont capables de faire ça ? Qu'est-ce qui fait que les individus qui ne sont pas du tout monstrueux, c'est l'idée de la banalité du mal, font ce type d'action ? Et c'est vrai que là, on est toujours saisi d'effroi, et notamment, je trouve que le théâtre, moi ça me touche particulièrement parce que là, on ne lit pas quelque chose d'abstrait, quoi. On écoute des témoignages réels qui sont joués par des individus qui essaient de les incarner un maximum et qui me touchent d'autant plus parce qu'ils incarnent très bien justement ce caractère ordinaire ou banal du récit de la violence, quoi.
Alors nous avons Fleur, est-ce que tu pourrais me donner un peu ton avis, ce que tu as pensé un peu de cette pièce, me dire un peu les points positifs, les points négatifs, ce qui a pu aussi peut-être te surprendre sur la forme de la pièce. Voilà un peu tout ça.
Alors moi je ne m'attendais pas du tout à une telle pièce par rapport au sujet qui est abordé. Du coup j'ai trouvé ça intéressant, c'était pas forcément le style de pièce auquel je m'attendais ou que je regarde d'habitude, mais la forme était intéressante et les acteurs transmettaient un message assez émouvant. Après je dirais pas que forcément que j'ai aimé parce que je trouvais ça un peu long, mais j'ai assez bien compris le message qui voulait être transmis par le metteur en scène.
Merci beaucoup. Alors on a Johan, j'aimerais savoir un peu ce que t'en as pensé un peu de cette pièce là, est-ce que t'as des points positifs, des points négatifs?
Alors moi ce qui m'a surpris c'est le fait que les personnages, enfin les acteurs pendant au moins 3 quarts d'heure ils étaient assis. Il n'y a pas eu trop de mouvement, il n'y a pas eu... Enfin juste ils parlaient quoi. Après sinon c'était pas mal, juste aussi ce qui m'a surpris c'est que bah, y a que les acteurs du génocide qui ont parlé. Et du coup, en plus comment ils le racontent, en fait on dirait qu'ils mettent une barrière entre ce qu'ils ont fait et comment ils le racontent. Et on dirait qu'ils ont zéro sentiment, genre ils ont mis une barrière mentale avec ce qu'ils ont fait. Du coup, bah, voilà. Merci,
okay, au revoir. Okay. Merci.